Bienvenue dans le podcast de Positive Compagnon, le label RSE Made in France. Dans ce podcast mensuel, nous aborderons les grands sujets de société et mettrons en lumière les solutions concrètes pour résoudre les principales problématiques sociales, sociétales et environnementales. N'hésitez pas à partager nos émissions à vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Bonne écoute!
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Positive Compagnie qui sera consacré aujourd'hui à une entreprise française inspirante qui redéfinit l'engagement solidaire d'entreprise. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers de Gandhi, une société française spécialisée dans le domaine des engagements solidaires et du mécénat d'entreprise. Avec une mission profondément ancrée dans l'impact social, Gandhi propose des solutions innovantes pour mobiliser les entreprises vers des actions philanthropiques significatives. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Laetitia Audibert. Laetitia, je vous laisse vous présenter et aussi expliquer comment vous est venue cette idée de créer Gandhi.
Bonjour Charles-Henri, ravie d'être là. Donc, je suis Laetitia Audibert, la fondatrice de Gandhi. Gandhi, c'est une plateforme SaaS, Solidarité as a Service. Qu'est-ce que c'est? On est votre impact manager à portée de clic pour booster votre mécénat, renforcer votre RSE et donner du peps à votre marque employeur. Comment c'est venu? Et du coup, il y a plein d'histoires, mais la première, c'est que quand j'avais 6 ans, j'ai fini devant le juge pour enfants parce que les dames de service donnaient plus à manger au fils du maire dans l'école qu'à des personnes pauvres. Et donc, ça m'énervait. Donc, je donnais mes repas. Et au bout d'un moment, j'en ai eu vraiment marre. Donc, j'ai fait la révolution à la cantine, le Che Guevara de la purée, avec grosse bataille. Et la maman du fils du maire m'a attrait en justice. Donc, je me suis retrouvée dans le bureau du juge à 6 ans avec mon papa et ma maman de chaque côté. Et le juge m'a donc sermonné en disant « Mademoiselle Audibert, vous ne pouvez pas faire justice vous-même. » Et donc, je me suis dit que ma carrière de justicière était fichue. Mais en quittant son bureau, il m'a murmuré à l'oreille « Mais vous avez eu raison ». Et donc, je me suis dit « Waouh, ma carrière de justicière est préservée ». Donc, je suis devenue avocat, comme Gandhi, le vrai, qui a eu une carrière d'avocat avant d'être le personnage qu'on connaît. Et j'ai voulu d'abord œuvrer pour la justice. Et en fait, je pense que j'aurais été l'avocate la plus pauvre de l'histoire de l'humanité parce que quand les gens venaient divorcer, moi, je les réconciliais. Donc, ce n'était pas forcément la bonne approche. Donc, bon, je me suis dirigée vers le droit des affaires. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la gestion de fortune. Et j'ai une carrière de peintre en parallèle, enfin, plusieurs vies. Et dans ces vies-là, à chaque fois, j'ai essayé de donner à des assos, de contribuer. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce social calling était très fort. Et donc, j'ai tout quitté pour créer Gandhi et permettre à chacun, qu'il soit un particulier, une entreprise, de contribuer à un monde meilleur et d'aider des associations de confiance.
Alors, c'est hyper intéressant parce que ce sujet, je trouve, est encore aujourd'hui, malheureusement, très mal géré dans les entreprises ou pas forcément suffisamment, en tout cas, adressé dans les entreprises. Et on peut tout à fait le comprendre, c'est-à-dire que il y a toujours un côté un peu compliqué de savoir vers quel asso se tourner. Est-ce qu'on fait ça de manière collaborative ou est-ce que finalement c'est le ou la patronne qui a peut-être un enfant handicapé et du coup décide d'investir lourdement des financements ou des actions sur des associations qui sont dédiées à ça. Donc il y a toujours un prisme derrière tout ça. Comment vous voyez ce sujet? Comment elle s'est abordée dans les entreprises et comment vous les accompagnez là-dessus?
Alors effectivement, il y a un biais cognitif qu'on a tous dans le choix d'une association et on a voulu répondre à cet enjeu aussi parce qu'il y a 1 500 000 associations en France. Donc souvent, ce sont les très grosses qui sont aidées, celles qu'on connaît ou comme vous le disiez très justement, celles sur lesquelles on a des acquaintances. Et donc, notre premier rôle, c'est dans ce 1 500 000, c'est d'avoir sélectionné des associations de confiance pour leur probité, leur bonne gestion et d'avoir des associations qui vont toucher toutes les causes, du handicap à la santé, en passant par bien sûr l'environnement, l'égalité des chances, les enfants. Et quand on rencontre une entreprise, notre premier rôle, c'est justement de comprendre son métier, ses valeurs, son ancrage territorial. Quand on est une entreprise eh bien, en PACA, c'est plus logique d'essayer de faire un circuit court dans le mécénat et d'aider localement. Par contre, quand on a des enjeux internationaux, d'aller vers l'international comme une entreprise de textile qui va utiliser des ressources locales et du coup, doit contribuer localement. Donc, bien c'est sûr. Vraiment notre rôle qui est d'aider l'entreprise à sélectionner. Mais au-delà de cette sélection en fonction du métier et des valeurs, on va aussi faire participer la communauté de l'entreprise. Donc, on va faire voter les collaborateurs, les clients,
les clients.
En fait,
les clients votent.
Les clients votent. Déjà, c'est une première opération de communication positive et d'inclusion. Aujourd'hui, la RSE, c'est l'affaire de tous. Et je pense qu'en plus, vous en êtes convaincus chez Positive Company. Et donc, on interroge l'écosystème pour savoir quelle est l'association qu'il pense que l'entreprise, dans cette présélection, devrait soutenir. Ce qui n'empêche pas après à l'entreprise de, bien sûr, soutenir cette association-là, mais d'avoir des causes sous-jacentes quand elle veut impliquer ses collaborateurs. Les collaborateurs n'auront peut-être pas la même appétence philanthropique que son entreprise, mais il a peut-être aussi, lui, envie de contribuer. Donc, on lui laissera quand même le choix sur d'autres causes pour qu'il puisse, lui, s'y retrouver. L'entreprise va peut-être soutenir les océans, et lui, il est justement touché parce qu'il a un enfant handicapé ou quelqu'un malade du cancer dans sa famille, il pourra quand même contribuer à des causes d'une manière ou d'une autre grâce à son entreprise.
Concrètement, il existe des milliers d'associations en France. C'est quoi votre grille aujourd'hui pour les choisir ? Comment est-ce qu'on sélectionne une association pertinente fiable dans le temps ? C'est quoi aujourd'hui vos critères ?
Alors, soit nous avons des associations qui bénéficient de grands labels, que sont donc Confiance ou Ideas, mais qui s'adressent plutôt à des très grosses associations. Soit nous avons nous-mêmes notre propre labellisation que nous avons créée avec SGS, qui s'appelle le label Do Good, et qui va aller avec une grille d'une trentaine de critères pour aller vérifier la probité des associations. Et celles qui n'ont pas encore la maturité d'être labellisées, on les accueille quand même parce que justement, on veut aussi pouvoir permettre de soutenir des petites associations sans être non plus le club de boules du coin, mais quand même avec un petit peu un peu cossu. On a nous-mêmes, on va quand même regarder sa gestion, sa transparence, ses comptes, on va lui demander certains éléments de KYC et bien sûr qu'elle soit en capacité d'émettre des reçus fiscaux, d'être d'intérêt général ou d'utilité publique. Donc ça, ce sont nos critères à minima, mais on pousse beaucoup sur le label que nous avons créé parce qu'il va aider les associations à se professionnaliser, à se structurer et ce label va les aider à collecter plus via Gandhi, mais aussi à collecter plus vis-à-vis des donateurs particuliers et des entreprises. Aujourd'hui, 62% des Français ne font pas confiance aux associations.
Donc, ils doivent
pouvoir. C'est énorme. Et côté entreprise, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, justement, l'entreprise allait aider une association parce qu'elle les aimait bien. Maintenant, comme ça rentre dans le cadre des enjeux RSE, eh bien, elles vont devoir justifier de pourquoi telle association plutôt que telle autre. Et donc, d'avoir un label, ça va aider l'association à avoir plus de probité, de montrer qu'elle gère bien et surtout qu'elle a une vraie volonté de professionnalisation et de rendre des comptes et surtout d'impact.
Et alors, nous, dans le cadre de labellisation et des rapports que l'on remet, on a tendance à préconiser des associations qui soient en lien, soit très fortement par rapport au territoire, l'implantation géographique, soit par rapport au cœur de métier d'activité et ses enjeux prioritaires. Il faut rappeler que la RSE, c'est avant tout la gestion des risques et des enjeux. Et donc, on va essayer plutôt de dire, par exemple, pour une boîte de la tech, d'aller plutôt investir dans des associations comme Elle Bouge, qui vont promouvoir notamment le métier de technique auprès de la population féminine. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce que il y a d'autres manières de faire aussi ?
Alors moi, je pense que c'est une excellente idée puisque on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment on attache cette importance-là au métier de l'entreprise, que ce soit cohérent avec ce qu'elle fait, que ce soit cohérent avec son territoire. On parlait de circuits courts et le mécénat doit aussi être de proximité pour qu'on puisse voir aussi l'impact de ce que l'on fait sur son territoire et que même aussi son écosystème et ses clients puissent aussi constater cet impact. Et aussi le côté, donc il y a le côté métier, le côté territoire, mais au-delà du côté territoire, il y a aussi, comme vous le disiez très justement, le côté objectif de développement durable. Et donc, nous, en fonction de ce que fait l'entreprise et de ses objectifs, alors soit on va venir en compensation, c'est-à-dire que, par exemple, dans ses objectifs, elle arrive à réaliser pas mal d'objectifs environnementaux par des actions concrètes de réduction carbone, de gestion des déchets, mais elle n'arrive pas à bien compenser au niveau sociétal. Et donc là, on va plutôt lui dire, ben, allez sur cette cause-là, parce qu'elle va permettre d'aller aussi remplir cette partie-là qui vous manque dans votre scope. Donc, ces deux approches, soit abondées dans la direction, soit un peu disruptives pour aller compenser là où l'entreprise a des lacunes dans son action.
Et je profite de ce podcast aussi pour mettre en lumière une association qu'on aime beaucoup aujourd'hui qui s'appelle les Bureaux du Cœur. Et qui permet notamment d'héberger des personnes sans-abri dans les bureaux. Effectivement, le soir, il y a de plus en plus de bureaux qui favorisent la QVT, et donc ont des lits, des salles de douche, des espaces de sport, etc. Et donc, ont la capacité en fait, d'héberger du monde. Et donc, sachez qu'il existe une association donc, qui s'appelle les Bureaux du Cœur, qui justement vont faire cette promotion-là et permettre à des personnes sans-abri de pouvoir... être logé en fait. Alors ça ne fonctionne pas que sur une nuit, hein. Il faut que ce soit sur une période un peu plus longue évidemment, pour qu'il y ait aussi, ça fonctionne avec un contrat derrière, donc c'est-à-dire que les deux sont je dirais couverts, mais voilà, je voulais juste mettre ça en lumière et ça me donne l'introduction de ma prochaine question, c'est Laetitia, est-ce que vous avez eu un coup de cœur sur l'ensemble des associations que vous voyez aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a une que vous voulez mettre en lumière plus qu'une autre, par exemple? Alors, je sais que cette question est un peu délicate parce qu'évidemment, on fait de la promotion de beaucoup d'associations, mais je parle plus à votre cœur là aujourd'hui, justement, laquelle vous a le plus étonné ou voilà, où vous vous sentez le plus proche aussi, peut-être?
Alors, effectivement, c'est excessivement dur parce qu'on touche tous les segments de la philanthropie et que chaque segment a à chaque fois des associations vraiment qu'on adore. Puis en plus, si on les a sélectionnées, ça veut dire qu'on les adore vraiment et qu'on est assez convaincu de ce qu'ils font. Si je devais en donner une, c'est peut-être Première Urgence Internationale qui... parce que déjà, ils ont été parmi les premiers à nous faire confiance aussi et à croire en notre projet. Ils interviennent sur toutes les zones de guerre, les catastrophes naturelles. Donc là, ils étaient en Ukraine, ils étaient au Maroc. Ils sont bien sûr là sur le conflit israélo-palestinien. Ils sont là voilà, partout où le besoin se fait, en prenant des risques incroyables et en étant d'une efficacité assez prégnante. Donc, ça fait partie des associations qui bénéficient du label Do Good. Donc, on a pu avoir aussi encore plus de proximité avec cette association pour aller voir la qualité de leur gestion de ces différents enjeux, puisque le label, pour rappel, on va aller voir la gouvernance, la gestion, la transparence, l'impact, la RSO au sein même de l'association, la manière dont elle traite ses richesses humaines, bénévoles et salariés, parce que c'est très important. Il y a des gros enjeux de qualité de vie au travail aussi au sein des associations, et il faut le souligner, parce que c'est pas parce qu'on travaille à faire du bien qu'on doit être maltraité aussi. Donc c'est très important. Ils sont souvent payés au lance-pierre. C'est un monde voilà, il faut aussi retravailler sur cet environnement-là. Et donc, voilà, Première Urgence Internationale, mais encore une fois, je les aime toutes. Et donc, si vous m'écoutez, les autres associations partenaires, gros big cœur.
Est-ce qu'on peut faire un petit point, Laetitia, quand on parle d'investissement solidaire, il y a plusieurs formes, en fait. Il y a le don nature aussi. Il y a le bénévolat ou le mécénat de compétences. Il y a la possibilité de faire des produits ou des services à prix réduit aussi. Il peut y avoir la collecte de dons ou de micro-dons qui sont réalisés. Aussi mettre à disposition ces infrastructures. On parlait tout à l'heure des bureaux pour les Bureaux du Cœur, mais il y a aussi d'autres choses ou du matériel d'entreprise. Donc l'action solidaire est protéiforme aujourd'hui. Qu'est-ce que aujourd'hui Gandhi propose sur l'ensemble de ce panel?
Alors nous, on est sur le mécénat financier qui va permettre ensuite aux entreprises de trouver soit les ressources en compétences, soit en nature dont elle a besoin dans l'immédiat. On trouve, enfin franchement, la compétence, le don en nature, tout est super et souvent une fois que le mécénat financier s'y adjoint. Moi, sur le mécénat de compétences, je mets toujours un petit levier d'attention parce que c'est devenu très à la mode et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont donner du temps aux collaborateurs, mais pas assez. Donc, ça va être 1-2 jours par an. Et souvent, moi, le retour que j'ai de pas mal d'assos, c'est que c'est un peu comme si elles avaient un stagiaire de troisième dans l'asso parce que le temps qu'elles et sa culture du besoin de l'association, c'est pas assez. Donc nous, on a voulu.
On a tous été stagiaires de troisième, hein, donc respect aux stagiaires de troisième.
C'est très bien, mais quand on va donner de la compétence à une asso, c'est frustrant de se dire, on peut pas en une journée comprendre les enjeux d'une boîte quelque part. Il peut y avoir des missions ponctuelles et c'est génial.
Bien sûr, bien sûr.
Mais il faut bien granulariser et être très vigilant à ça pour pas que ça fasse team building de faire du mécénat.
J'ai personnellement l'occasion de faire du mentorat et c'est vraiment sur le temps long qu'on voit que ça fonctionne le mentorat. Hein. C'est pas un ou deux rendez-vous, hein. C'est vraiment apprendre à connaître des personnes sur le temps long, dans leur entièreté, etc. Donc, je partage tout à fait votre vision.
Voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va donc aider, comme je disais, choisir à l'association. On va ensuite aider l'entreprise à collecter des dons elle-même pour éviter le green et le social washing par le truchement d'une cagnotte. Mais on va aussi mettre en place plusieurs types de leviers donc qui vont être aussi protéiformes dans ce monde protéiformes. Par exemple, le don d'onboarding. Au lieu d'acheter des goodies à votre nouveau collaborateur, vous lui offrez un don cadeau au profit de l'association sans choix. On va mettre en place d'autres leviers comme par exemple le don sur économie. Ça marche très bien. Aujourd'hui, tous les enjeux RSE, c'est difficile d'impliquer ses collaborateurs. Je vais vous prendre un exemple d'un client qui l'a fait récemment. Il a voulu diminuer sa note d'électricité. Il n'arrivait pas à faire que les collaborateurs éteignent les lumières, les PC, etc. le soir. Il a dit, si on arrive tous ensemble à faire 15% d'économie, cette économie sera reversée en don à l'association de votre choix. Du coup, ils ont réussi à faire cette économie. Les gens ont été motivés, l'association y a gagné et tout le monde, c'est vraiment du gagnant. Un autre levier qui marche très bien en ce moment aussi, c'est le don sur questionnaire, avis Google, baromètre RH. Ce sont des leviers.
Répondez à ma question avec questionnaire.
Restionnez à ma question. Et si vous répondez, X euros sera reversé à l'association. Et du coup, ça marche super bien parce que, encore une fois, c'est du gagnant-gagnant. Et l'entreprise va aussi défiscaliser puisque nous, on s'occupe d'émettre les reçus fiscaux. Et donc, par rapport à tous ces enjeux de mécénat dont vous parliez tout à l'heure, donc nous, on est sur le don financier. On est aussi sur la communication de l'impact parce qu'aujourd'hui, faire le bien, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux parce qu'on a un grand adage dans Gandhi qui est « donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire, c'est la seule ». Et en fait, le fait de connaître ce à quoi ça a servi, ça suscite la fierté, le sentiment d'appartenance et l'envie de continuer. Donc, la plupart des associations, elles vous envoient le rapport annuel et c'est un peu des merdenzizich. Et du coup, là, on ne le lit pas et personne ne sait. Ou au pire, ils vont vous ressolliciter sur une action à venir. Donc, nous, on donne des petites capsules vidéo d'une minute pour que l'entreprise puisse dire, grâce à nous, voilà ce que fait l'association. Des témoignages bénéficiaires, des nouvelles de l'impact, etc. Et ça donne à continuer de donner. Et donc, comme différenciation par rapport à ce qui existe aussi, on va un petit peu plus loin avec un système qu'on appelle, on fait venir l'association aussi sur place parce qu'on pense qu'il faut qu'il y ait un lien humain avec l'association.
Avec l'entreprise, bien sûr.
Avec l'entreprise, qu'il puisse y avoir des gens qui se posent des questions, qui comprennent ce qui se passe sur le terrain. Et après, on va aller sur un axe de progression de manière un peu plus globale avec un aspect qu'on a appelé RSE augmenté, où derrière, on va permettre aux entreprises de trouver des idées d'action RSE, le calcul d'empreinte carbone, la mobilité, l'égalité des chances, se faire labelliser Positive Company, ou alors des défis à faire réaliser à leurs collaborateurs la journée sans viande, le plugging, le mois des fiertés. L'idée étant d'acculturer les collaborateurs sur des petites actions où ils se rendent compte que chacun peut agir à leur niveau pour pouvoir rentrer dans cette politique plus globale de l'entreprise sur ces enjeux RSE. Et bien sûr, on essaie de gamifier tout ça par le don. Si vous avez ramassé tant de mégots et fait, la journée du Digital Cleanup Day, tous les octets se transforment en dons pour reforester, aider les océans, etc. Donc voilà, on a plein
d'idées. Il n'y a pas d'idées en tout cas. Laetitia, on arrive à la fin de ce podcast et on a deux questions signatures. La première, c'est Est-ce que aujourd'hui, vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs pour se lancer?
Oui, c'est déjà la phrase du pape, je suis complètement religieuse, c'est « n'ayez pas peur ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la RSE, on se sent souvent désarmé parce que c'est extrêmement vaste et la plupart des entreprises ne savent pas par quel bout prendre les choses, donc procrastinent. Et que nous, on essaye avec Gandhi de vous donner une guideline, des actions faciles à mettre en place, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que dans cet enjeu-là, le mécénat a quelque chose de particulier, c'est qu'il est immédiatement tangible et compréhensible. Versus, j'ai économisé 100 tonnes de CO2 où personne comprend bien, si on n'est pas du métier, ce qu'on fait. Oui. Quand votre entreprise dit on a aidé 500 ou 5000 enfants à avoir accès à l'eau potable, les gens comprennent tout de suite. Et c'est un très bon liant pour ensuite mettre en place d'autres actions. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Nous, on s'adresse de la start-up à l'ETI. Tout le monde peut agir. Et donc, n'ayez pas peur, allez-y. Faut se lancer.
Alors, est-ce que vous auriez une lecture, un film, un bouquin, une série que vous auriez vu récemment qui vous a inspiré ou marqué?
Là, j'ai regardé il n'y a pas longtemps une série qui s'appelle Anticipation. Alors, je ne suis pas 100% sûre du titre, mais je crois que c'est ça, où il y a Meryl Streep, Edward Norton. C'est une série courte où c'est le monde dans 1 degré, le monde dans 2 degrés de plus, et donc pris au niveau de l'expérience humaine. Donc, qu'est-ce que c'est de vivre dans une ville où à Miami, il y a la montée des eaux, où c'est la dernière baleine qui survit, et dans différents pays, en Inde, aux États-Unis, en Europe, en Norvège. Donc, voir vraiment une approche assez globale. Et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent, bien construit, pas dystopique du tout, malheureusement. Et je trouve que c'est un bon ouvreur de conscience. Et je crois qu'aujourd'hui, les consciences doivent s'ouvrir. Donc, même si ce n'est pas sur une note positive dans l'absolu, ça reste quand même positif parce qu'à partir du moment où on se prend conscience, on peut devenir acteur et donc agir et changer les choses.
Génial. Un immense merci, Laetitia, pour votre participation à ce podcast. Je rappelle que Gandhi, ça s'écrit G-A-N-2-E. Donc, avec grand plaisir, foncez chez Gandhi. C'est l'urgence d'aller chez Gandhi. C'est une très belle initiative. Et encore bravo pour ce que vous faites. On sent que cette entreprise est portée avec cœur. Elle a du sens. Et j'espère qu'elle apportera du sens aussi à vos organisations. Merci beaucoup, Laetitia. Et suite au prochain numéro dans un mois. Merci beaucoup à nos auditeurs aussi. N'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne de podcast. À très bientôt.